Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, le meilleur ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Étienne, aujourd'hui, on reçoit Cathy Marquis de Génération Sidechicks, puis aussi de Urban Podcast. Qu'est-ce qui fait d'elle une bonne invitée?
Ben écoute, Cathy, en fait, c'est notre productrice pour Les Dérangeants pour la saison 6. Puis on a découvert vraiment une entrepreneure en devenir qui a quitté la grosse job chez Québécois, qui travaillait chez KO TV, qui travaillait pour les rêves de quelqu'un d'autre. Puis elle s'est décidée, pendant la pandémie, de dire « je me lance ». Et donc, on voit vraiment l'évolution d'une personne qui découvre c'est quoi les bons coups, les mauvais coups d'entrepreneuriat et surtout comment s'entourer. Fait que c'est quoi qui peut arriver quand on s'entoure mal, qu'on n'a pas les bonnes personnes à nos côtés pour livrer la marchandise, puis notre rêve. Puis non seulement qu'on l'a tous déjà vécu, qu'on le sait dans nos embauches, nos mentors, notre famille, mais Cathy, c'est comme le cas typique d'une personne qu'on s'imagine que tout va bien, on la suit sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être beau, parfait, la grosse croissance, mais non, pas du tout, c'est pas ça la réalité. Et en même temps, ce qui est super intéressant, c'est toute la business du podcast au Québec. Comment qu'on fait pour en vivre? On n'est pas beaucoup de balados à avoir, enfin, un bon reach et à être capable d'avoir des budgets. Puis elle a vraiment réussi à crack the code, là.
Mais restez avec nous. On se retrouve après la pause pour la discussion avec Cathy Marquis.
Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour à tous, ici Marc-Laure Riquette comme animatrice et comme à chaque semaine, j'ai des dérangeants avec moi. Les dérangeants, c'est Carlo Coccaro, Anne Martin, Louis-François Marcotte, mais aujourd'hui, j'ai Dominique Gagnon.
Bonjour!
Connect and Go et Étienne Crevier, notre entrepreneur en série.
Salut Marc-Laure!
Allô Étienne!
Salut!
Avant de commencer, on a notre PPP de la semaine. Dom, c'est quoi ton PPP?
J'irais sur une plug, peut-être, mais c'est pas nécessairement une plug. J'étais au gala d'entrepreneur de l'année de EY qui se tenait dernièrement et c'était vraiment
encore une fois.
Encore une fois, j'ai pas gagné cette fois-là. Donc, j'ai pas gagné, mais très content de pas avoir gagné. En fait, j'étais épaté puis je me rends compte à quel point, des fois, on est un petit gars parmi les grands. Tu sais, il y avait des gens qui avaient Mac dans l'immobilier. Il y avait des entreprises dont les filles de Mendy's qui étaient là, les gens chez Cookit. Il y avait des entreprises vraiment très, très impressionnantes. Et juste d'être nominé, j'étais super fier, mais de voir aussi à quel point on célèbre encore une fois l'entrepreneuriat. C'était vraiment le fun de voir toutes les gens. Il n'y avait plus de catégories cette année, ils ont changé. Donc, c'était l'entrepreneur de l'année en général qui ont été mis. Mais ça a vraiment été un super gala, un super événement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un événement en présentiel, on appelle encore ça. Exact, puis ça fait du bien de voir ça. Puis je veux remercier EY, mais tu sais, tout le monde qui organise des concours pour l'entrepreneuriat. Je pense qu'on en a besoin parce qu'on ne se le fait pas dire tant souvent merci, puis vous êtes bons. Fait que je pense que c'est un beau moment de tout ça être ensemble pour célébrer l'entrepreneuriat. Puis c'est vraiment une super soirée.
Toi, c'est la plug. Moi, je ferai une plainte un jour parce que quand j'avais été EY Entrepreneur of the Year, t'es nominé, il faut que t'envoies tes états financiers puis t'achètes une table à 10 000.
Ah, tu vois, ça c'était fini. Ça coûtait rien cette année, mais il fallait quand même envoyer nos états financiers.
Bon, t'sais. Écoute, moi, je vais y aller avec une plug, Marc-Claude, si tu me permets, je vais rebondir tout de suite pour parler de la loi 25. Un peu moins glamour, plus plate, mais c'est vraiment une réalité des entrepreneurs. Puis c'est pas un sujet pour en faire un épisode, mais il faut être compliant, comme on dit en bon français. Donc, il faut vraiment se rendre aux normes de la loi 25 pour la protection de la confidentialité. En Europe, ils l'ont fait avec la GDPR. Et donc, maintenant, il va y avoir des ressources pour ça. Et sur le site web lesdérangeants.com, on a une nouvelle section membres où est-ce que c'est gratuit, mais les gens peuvent s'inscrire, devenir un dérangeant vous-même et ayez accès à plein de templates pour vous aider dans vos entreprises. Et on va mettre en liste, en ligne, des ressources pour comment se rendre compliant avec la loi 25.
Et qui est vraiment important parce que les pénalités sont assez impressionnantes.
Ah, puis il va y avoir une couple de cas de figure. Hein. Ils vont prendre des modèles pour vraiment nous rentrer dedans. Puis ils vont les médiatiser. Donc, tu ne veux pas être dans cette liste-là.
Tout à fait.
Non, mais c'est ça. Parce qu'il y a souvent les gens qui nous décrivaient pour des petits conseils. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de justement mettre des outils en ligne. Bien, moi, je vais faire un lien avec notre épisode qui est de bien s'entourer. Pour être ici aujourd'hui, vous le savez, les gars, moi, ça fait même pas un mois que j'ai donné naissance.
Une autre start-up.
C'est ça, un autre plan d'affaires là, qui se construit. Fait que pour être ici, bien, j'ai eu à faire appel à des aides. Il y a plein d'organismes communautaires qui viennent en aide aux jeunes familles qui ont des enfants. On se dit entrepreneurs, femmes en affaires, qui doivent concilier le travail, la famille. C'est pas toujours évident. Fait que des fois, ils savent pas les gens, là, mais il y a plein de gens qui peuvent nous aider. Qu'il y a plein de là, j'ai une gentille madame Yannick à la maison qui s'occupe de ma poupoune. Fait que, tu sais, pour les jeunes mamans qui sont entrepreneurs, qui sont un peu dépassées, il y a des organismes appelés le centre aide, appelés dans votre région. Ça existe. Fait que c'est ce que je voulais dire.
Très cool.
Donc, on poursuit.
L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca.
Pour notre capsule d'experts aujourd'hui, on reçoit Jacques Drouin, associé directeur chez Kera Capital, et on parle de l'importance des intermédiaires dans l'achat et la vente d'entreprises. Salut Jacques.
Enchanté.
Jacques, quand on parle d'intermédiaires, on veut dire quoi?
Essentiellement, on pourrait dire un courtier. Quelqu'un qui va se positionner entre un acheteur et un vendeur.
OK, il faut que je te dise tout de suite. Il y a une profession que je déteste à mourir. Celle que je déteste le plus au monde, c'est les courtiers immobiliers résidentiels. Ouais. Rassure-moi, puis dis-moi que c'est pas la même gamique que ce monde-là.
Non, pas du tout, en fait. On n'est pas du tout dans le même genre de registre.
C'est quoi les grandes différences entre un courtier immobilier un courtier d'entreprise et un courtier immobilier résidentiel en termes du fonctionnement puis de la mécanique?
Bien, je pense que c'est la complexité. D'un côté, tu as une complexité parce qu'une entreprise, c'est pas une maison. Alors, c'est beaucoup plus complexe à vendre. Il y a plus de trucs à vérifier. C'est la même chose si tu veux en acheter une. C'est beaucoup plus complexe. Puis aussi, il n'y a pas de marché organisé comme MLS ou Centris où là, tu peux tout simplement mettre là, en quelques photos puis quelques lignes ce que tu vends ou ce que tu achètes. Donc, tu as besoin d'avoir quelque chose, d'être accompagné pour passer à travers un processus qui est plus complexe.
Mais tu vois, moi, une de mes coupes Stanley à moi, c'est dans ma carrière d'entrepreneur, c'est d'acheter puis de vendre une entreprise. J'aimerais ça accomplir ça. Mais comme entrepreneur, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a la naïveté de penser qu'on peut tout accomplir. J'aurais tendance à faire ça tout seul. T'sais, j'aurais tendance à approcher des entreprises ou d'autres entrepreneurs, discuter avec eux, échanger, aller chercher de l'information, puis faire « OK, cette entreprise-là, je veux l'acheter, combien tu veux? » Puis, c'est-tu une bonne idée ou pourquoi c'est pas une bonne idée?
Ben, je te souhaite meilleure chance que les Canadiens de Montréal là, pour une carte toute année déjà. Là.
Ouais.
Mais moi, j'ai déjà été président d'une compagnie, puis je disais souvent à mes employés, parce que là, tu sais, face à un problème, ils me disaient toujours « on est capable de le résoudre nous-mêmes ». Puis je leur disais toujours, la question, c'est pas de savoir si vous êtes capable ou pas, la question, c'est si vous devriez le faire ou non. Okay. Alors, c'est comme dans ton entreprise, toi, comme président, t'es probablement capable de faire tout. Mais est-ce que tu le fais tout? Non.
Puis pas tout bien non plus.
Non, exactement. Alors, le courtier, il est spécialisé pour faire une chose en particulier et puis qui risque de probablement beaucoup mieux le faire que toi.
Puis c'est quoi les principaux gains? Tu sais, si t'avais, mais disons, le top 3, tu veux me convaincre, moi, là, de prendre un courtier pour acheter ou pour vendre mon entreprise, les trois principaux gains que je vais avoir à faire affaire avec toi?
Si tu vends, c'est deux choses différentes, acheter puis vendre. Si tu vends ton entreprise, tu vas probablement avoir un meilleur prix.
OK.
Même déduction faite du coût du courtier.
Ah oui. OK.
Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a quand même une responsabilité. Quand tu vas vendre ton entreprise, tu vas traîner une forme de garantie en arrière. Tu as une responsabilité. Donc, tout le processus, la manière que tu vas passer à travers le processus, la documentation, les choses que tu vas livrer à travers le processus vont faire en sorte que tu vas te retrouver avec une garantie ou une responsabilité juridique à la fin plus ou moins importante. Donc, tu peux le faire tout seul si tu veux, mais tu peux te retrouver avec des gros problèmes à la fin. Puis c'est pas juste le courtier, là, je dirais que ça va te prendre un bon avocat aussi. Ouais. Quand tu achètes une entreprise, à moins que tu l'aies déjà identifié, nous, on travaille des fois avec des entreprises qui cherchent à acheter des entreprises. Je donne toujours l'exemple du headhunter. Parce que si tu, par exemple, si tu veux acheter une entreprise, tu ne veux pas nécessairement acheter celle qui est à vendre. Tu voudrais acheter celle que tu veux ou que tu as identifiée, que tu dis, mais c'est celle-là que je voudrais. C'est un peu comme le headhunter. Ouais. Tu ne veux pas nécessairement engager la personne qui t'envoie son CV, tu veux engager
le meilleur.
La meilleure qui n'a probablement pas le temps de voir ton annonce parce qu'il est en train d'outperformer dans son.
Et que c'est peut-être même pas qu'il veut changer de job.
Exactement. Ouais, alors, le rôle du courtier, c'est d'aller à la chasse, d'aller chasser la bonne cible. Puis ça, je suis sûr que tu n'as pas le temps de le faire.
Non, c'est clair. Puis je reviens à l'autre point d'avant, à la vente. Là. C'est vrai qu'il faut la responsabilité qu'on a comme vendeur suivant la transaction peut avoir des conséquences financières et légales immenses. Puis là, c'est clair que je verrais vite que je serais dépassé par l'anticipation de tous ces enjeux-là.
Puis il y a aussi le fait que tu veux peut-être, tu vas faire face à une multitude d'acheteurs potentiels à un moment donné. C'est pas juste le prix hein, quand tu vends. Là. Il y a qui achète, comment il va acheter, l'acheteur, est-ce qu'il va vouloir garder les employés ou non, va déménager l'usine ou non, etc. Donc, tu sais, il y a une multitude de facteurs à prendre en considération dans ton... puis il y a autant de facteurs qu'il y a de structures possibles de transactions.
Comme vendeur d'entreprise, là, est-ce que c'est comme dans d'autres professions? Le plus tôt je vous appelle, le mieux c'est? Question de préparer la vente pendant un an pour ensuite avoir les meilleures conditions ou c'est pas si dramatique?
Non, mais je pense que c'est important de le faire à l'avance parce qu'il y a des choses qui doivent être faites avant de débuter le processus. Donc, d'avoir une relation continue avec un courtier que tu penses un jour engager d'ici un an ou deux, c'est bon. Je te dirais aussi d'appeler ton fiscaliste.
Oui,
hein? Alors, ton fiscaliste avant, parce que c'est souvent des problématiques fiscales puis des problématiques comptables qu'il faut nettoyer ou régler avant de commencer à penser à vendre.
Okay.
Donc, moi, appelle ton fiscaliste, appelle ton comptable, t'assurer que tout va être en place, puis après ça, tu peux commencer avec ton courtier.
Faire le tour de 3-4... Ça se magasine un courtier.
Ah, absolument.
Puis, comme entrepreneur, pour moi, la relation est importante.
Ouais.
Je suis quelqu'un de très humain dans mes approches. Donc, d'avoir un courtier qui a les mêmes valeurs que moi, avec qui je m'entends très, très bien, ça se trouve aussi quelques mois d'avance, là, comme ça. C'est pas, tu cherches pas le jour où tu vends.
Et l'indépendance. Ça, les gens ne le réalisent pas. Il y a plein de boîtes de courtage, il y a plein de firmes qui vont faire des fusions et acquisitions qui sont pas indépendantes. Ça veut dire qu'ils sont détenus par une banque, sont détenus par un groupe financier, sont détenus, par exemple, par un bureau de comptable, des choses comme ça. Alors là, t'es pas nécessairement dans un cadre d'indépendance.
Okay.
Okay? Alors, par exemple, moi, personnellement, ça serait important pour moi de travailler avec quelqu'un qui je sais qu'il va travailler juste pour moi, qui ne sera pas de me vendre d'autres produits.
Je comprends. Comme entrepreneur, là, j'aurais tendance à penser que de faire affaire avec des courtiers vient complexifier la relation entre entrepreneurs, qui, pour moi, est chère. Si je veux acheter une entreprise ou vendre mon entreprise, la relation que je vais établir avec l'acheteur ou le vendeur, pour moi, est importante. Puis, tu sais, en affaires, ça va vite. Hein? Tu fais venir un avocat, tu fais venir un courtier, puis là, vite, tu as l'impression que le monde facture leurs heures puis que ça, tu sais, qu'ils créent des problèmes à la limite. Est-ce que je me trompe?
Oui.
Ouais.
Je vais te donner l'exemple de... Nous, par exemple, on représente souvent des acheteurs, des conglomérats, en fait, qui viennent acheter des petites entreprises, pas nécessairement des grandes entreprises. Puis souvent, quand on approche une cible et puis l'entrepreneur, de l'autre côté, il veut vendre, souvent, il va avoir la meilleure réaction que toi, tu sais, parce qu'il veut limiter ses coûts.
Oui.
Puis la première chose qu'on lui dit, on lui dit « va te chercher quelqu'un ». Parce que ça va devenir compliqué de dealer juste avec toi, OK? Alors, au contraire, l'acheteur, souvent, il va se sentir plus à l'aise de voir que tu es bien entouré, que ta documentation est correctement faite, que tu es entouré d'experts, qu'on va être capable d'avoir des discussions rationnelles le plus possible, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans une transaction. Fait que si tu commences à mélanger tes émotions avec la documentation et tout ça, très, très problématique.
Oui, il ne faut pas prendre personnel les demandes d'informations.
Exactement.
Tu sais, on veut savoir les détails sur tel truc. Il ne faut pas le prendre comme une attaque qu'il ne croit pas. Il faut que ce soit bien fait pour le documenter. Puis, dernière question, imagine que je suis en train de vendre mon entreprise. C'est quoi les mécaniques ou les mécanismes les plus souvent utilisés pour maximiser la valeur de mon entreprise à la vente?
L'encan.
Ah, vraiment, l'encan?
L'encan. Alors, tu sais, tu as peut-être déjà vu dans des films, là,
ça devient... 3 millions, monsieur.
Ah, exactement. Donc, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est créer un encan virtuel.
OK.
Puis, les participants, donc, d'avoir la bonne documentation pour être sûr que les gens qui vont faire leur soumission, en fait, vont avoir la bonne documentation. Puis, s'assurer que tu as les bonnes personnes dans la salle. Parce que si tu as tout le monde que tu veux pas avoir dans la salle, tu risques pas d'avoir un bon encan.
Juste les compétiteurs qui veulent...
Donc, quand on vend une entreprise, notre travail, c'est vraiment de créer un environnement d'encan. Pour t'assurer que les gens qui sont dans la salle disent « OK, je la veux-tu vraiment, l'entreprise? » Si oui, OK, mais tout le monde est autour, ils les voient pas. Ils voient pas les autres participants, mais ils savent qu'ils existent.
OK, fait que c'est pas un encan vraiment dans une pièce.
Non.
C'est-à-dire...
C'est virtuel.
C'est virtuel. On dit aux gens qu'il y a une entreprise à vendre, on va sonder du monde, on les met en compétition.
Ben, ils savent qu'ils sont dans un encan. On leur dit « Vous êtes dans un encan, mais c'est un encan à l'aveugle. » Ils le voient pas. Ils voient juste l'entreprise, mais ils savent qu'ils sont pas tout seuls dans la pièce, mais ils les voient pas, les autres. C'est angoissant.
C'est clair. Mais oui, t'as peur de le fear of missing out.
Exactement, puis c'est là-dessus qu'on va jouer.
Puis, en moyenne, t'es capable de nous dire, mettons que mon entreprise, théoriquement, vaut 1 million.
Ouais.
L'encan va l'amener où?
Ah, on a des cas où on était capable de doubler la valeur.
Ah oui.
Hein? Ouais, ouais. Ça fait que c'est Ça dépend vraiment. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses, mais généralement, là, on est capable d'aller chercher un pourcentage significatif.
Génial. Jacques, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On est de retour avec Cathy Marquis, qui est l'animatrice en arrière de Génération Side Chicks et aujourd'hui propriétaire de sa nouvelle entreprise qui est Production Urban pour les podcasts. Mm-hmm. On se retrouve justement dans tes studios.
Yes.
Merci Cathy de nous recevoir, de te recevoir.
C'est un plaisir. Ça fait du bien d'être chez nous, mais dans un autre salon.
Ça te fait très bien comme ambiance.
Ah oui, vraiment, vraiment.
C'est tout un tremplin. Tu étais dans l'univers des médias. Tu avais un gros poste, mm-hmm. plusieurs gros postes dans les dernières années. Là, tu te lances en affaires. Et qu'est-ce qui t'a amené à dire, OK, c'est mon moment à moi, je me lance, c'est fini de travailler pour les autres, je fais ça pour moi?
Mm-hmm. C'est une bonne question. Des fois, j'aimerais ça dire comme, ah, j'ai tout le temps eu envie de ça, ou mon chemin était déjà tracé dans ma tête puis c'était dans mon plan de match. C'était pas du tout le cas. Ça s'est présenté un peu avec le contexte de la pandémie. Tu sais, j'ai eu pour la première fois après 10 ans de carrière dans mon domaine un arrêt de travail forcé. Fait que c'est la première fois que j'étais vraiment seule avec ma tête puis que je pouvais réfléchir. Puis j'étais comme ah, il y a quelque chose qui m'habite que je force à, tu sais, je me forçais à le mettre en dessous de là, tu sais, en veilleuse parce que j'avais pas vraiment la confiance nécessaire non plus pour éveiller ça puis me lancer dans le vide. Et avec la pandémie, mais on était tous en arrêt. Fait qu'on était tous à pied d'égalité. J'étais comme, si je me plante, ça paraîtra pas. Tout le monde est sur le chômage. Fait que j'étais comme, c'est le bon moment de prendre un risque. Mais tu sais, je dois avouer que j'essaie vraiment de me projeter. Puis je dis, si la pandémie avait pas eu lieu, est-ce que j'aurais eu enfin le courage? Je le sais pas, parce que j'aimais ce que je faisais.
Mais quand tu dis que tu l'avais au fond de toi, mm-hmm. qu'est-ce que tu veux dire? C'est que tu as toujours eu un élan puis tu le freinais, ou tu avais des peurs, des craintes qui t'empêchaient de le faire?
On appelle ça le syndrome de l'imposteur.
Oui, bien, ça a l'air que tout le monde l'a, hein, finalement.
Ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui l'a. Le syndrome de l'imposteur, un problème d'estime, puis moi, ça va être le travail d'une vie. Je pense que je vais toujours avoir besoin de travailler sur mon estime personnelle. Puis on fera pas ma psychanalyse, là, je l'ai faite
avec mon thérapeute
depuis longtemps.
Ça serait un bon épisode, quand même.
Ça serait vraiment un bon épisode, mais sortez-vous une fois. Okay?
Non, puis déjà, je suis comme estime, confiance.
Ben pour moi, c'est deux concepts différents.
Oui, ben exactement.
Oui, parce que, tu sais, je suis une personne qui est confiante. Je suis très fonceuse, je suis déterminée.
Ouais, t'étais en vente, qui est quand même généralement ce qui demande énormément. On se fait dire non à tous les jours et qui demande la confiance.
J'ai confiance, mais à l'intérieur de moi, alors que tous les gens disent, mon Dieu, cette fille-là, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle marche, tu sais, mon père me disait souvent, t'as un rythme très déterminé, mais en dedans de moi, c'était comme, je shakais. C'est juste que ça paraissait pas.
Fait que là, ça t'a pris la PCU pour être capable de dire, ça, c'est correct, là, j'ai l'imposteur.
Je suis surprise que tu me dises que tu as un enjeu, mettons, d'estime mm-hmm. de toi, parce que quand moi, je regarde tes réseaux sociaux, jamais, je pourrais penser ça.
Exact. Mais c'est un travail, c'est quelque chose... Tu sais, je pense pas qu'on peut dire un jour, j'ai confiance en moi puis je travaille plus jamais, ou j'ai estime en moi ou en mes capacités. J'estime que j'ai le talent pour faire ça. Je pense que c'est le travail qu'on doit faire à tous les jours, puis surtout les femmes. Là, en plus, tu viens d'accoucher, tu comprends ce que je veux dire? Le cycle hormonal fait en sorte qu'il y a des journées que je me sens vraiment powerful. Je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, you got it, girl! Puis il y a des lendemains que je suis comme, aussi. Non.
Honnêtement,
non.
Là. Ça, j'ai vraiment regardé dans le miroir, me dire la même chose. Je sais pas combien de fois, c'est pas mon cycle hormonal, je pense. C'est comme là, faudrait que je me rase, là.
C'est faudrait que tu te rases. Mais tu sais, je pense, ça dépend des journées. Je pense que c'est le travail d'une vie. Je dois avouer, par contre, que le fait d'enfin avoir eu ce courage-là de me mettre en avant-plan, tu sais, moi, le côté que je dis que ça, tu sais, pour répondre à ta question, là, ce qui dormait en moi, ce côté de vouloir être autonome, de mes propres idées, de me réaliser, puis pour une fois, d'arrêter d'être la personne qui engageait les talents en médias, puis d'être la personne qui prenait parole sur des sujets, parce que souvent, en fait, c'est ce qui a créé un grand déséquilibre intérieur, je vais le dire, c'est que moi, mon rôle, c'était directrice au monde national, ça veut rien dire, mais... Dans
tout
le titre,
dire en même temps.
Mais tout dire en même temps. Tu sais, j'étais, par exemple, chez Québécois, autant que chez K.O., mon rôle était de créer des concepts originaux pour les entreprises, que ce soit les agences publicitaires ou des clients directs, pour répondre à leurs objectifs marketing, et on les diffusait à travers nos médias. Fait que moi, des fois, là, quand je recevais un brief, tu sais, la campagne du lait, par exemple, tu sais, à un moment donné, on sait plus comment la réinventer, là. Fait que tu sais, tu vas puiser dans des séances de brainstorm. C'est ça. Puis, écoute, attends, là, je vais te parler de plancher pelvien. Tu me diras comment qu'on refait un brief original à l'entour
de je peux t'arriver peut-être avec des bonnes idées en ce moment.
Pendant qu'on se parle en ce moment, Marc-Claude, on se contracte, OK? Mais, tu sais, il y a tout. Il faut toujours se réinventer. Les clients s'attendent tout le temps à avoir le concept qu'ils n'ont jamais entendu.
Fais-moi quelque chose de viral, s'il te plaît.
Exact, tu sais. Puis, dans les séances de brainstorm, il faut aller puiser dans notre vulnérabilité, dans notre expérience de vie. Il faut aller chercher des éléments qui nous habitent dans le présent. Puis, ça c'est arrivé tellement de fois que je développais, que ce soit, par exemple, une série documentaire ou autre. Puis c'était mes idées, là, ça partait de mon corps, mon vécu, mais c'est quelqu'un d'autre qui le livrait à ma place.
Mais si tu disais, dans le fond, c'est que tu enrichissais les autres. Puis c'était toute la citation, tu sais, travaille pour tes rêves, sinon tu travailles pour les rêves de quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, exact. Que tu es arrivé à un point de non-retour. Tu dis là, fuck off, j'ai envie de comme au moins que m'enrichir là-dedans dans le processus.
Exactement.
Puis je serais curieux de savoir, parce que c'est parti de Génération Sidechick, qui est ton podcast à la base, que là, ça a été l'étincelle qui t'a donné les idées d'avoir Urban Podcast ensuite. À quel point ça a été important pour te lancer en affaires d'être une personnalité publique ou de monétiser ton image?
C'est important dans le sens que c'est la base de tout, tu l'as dit. Fait que c'est sûr que si j'enlève le côté de moi, j'étais l'animatrice et la productrice de Génération Sidechick, je ne sais pas si Urban Podcast aurait vu le jour, parce que la raison qu'Urban Podcast... la boîte de production, puis d'ailleurs, c'est grâce à vous que je l'ai remis l'avant, parce que dans mon plan stratégique...
Ça nous fait plaisir, on prend juste 5 %.
En raison de ma séparation professionnelle, je le sais que vous allez revenir avec ça plus tard, c'est correct qu'on va en parler, mais en raison de ma séparation l'an dernier, que j'ai rebrandé puis j'ai fait un changement, bien, j'ai mis ça sur la glace parce que j'étais comme, OK, je suis la seule dans ma maison à tout faire en ce moment, je veux bien faire les choses.
Je vais gérer le shit show, je vais faire le ménage.
Exact, je vais régler une affaire, puis une fois que ça va être calme, je vais repartir. Fait que dans mon idée, c'était juste en janvier 2024 que je me replongeais dans Urban Podcast. Puis quand...
Les dérangeants
sont venus me déranger dans mon quotidien. J'ai fait, écoute, il y a un besoin. T'sais, les gens me contactaient en raison de Génération Sidechick. Ils étaient comme, hey, t'as réussi à créer quelque chose qui est sharp, qui est pertinent, qui fait du bien, qui se tient, qui est rassurant autant pour les auditeurs, mais également pour les publicitaires qui ont envie de se greffer au podcast. T'sais, aujourd'hui...
Mais le segment de marché qui est la femme...
Oui, ça, c'est
25-45.
Exact.
T'sais, je pense que c'est 80 % des budgets publicitaires au monde, Coca-Cola, tout le monde veut... Tu sais, le yogourt Danone, Target, ce segment-là. Ouais. Puis c'est de créer cette plateforme-là. Mm-hmm. Puis juste pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que j'ai l'air d'un gars qui écoute Génération Sidechick vu que je t'ai contacté pour
mais
ça.
Mais ça se peut, parce qu'il y a plein de gars qui nous écoutent.
J'en ai écouté, même pas. J'ai écouté quelques épisodes. Peut-être pour revenir, moi j'aime bien revenir un peu en arrière, parce que tu sais, il y a énormément de gens qui ont des gros jobs. Moi, je pense que c'est un des plus gros freins à l'entrepreneuriat. Moi, j'enseigne à l'ETS aux ingénieurs.
Ouais.
Puis il y a une statistique qui dit que les ingénieurs sont ceux qui vont le moins se lancer en affaires parce qu'ils gagnent trop un gros salaire en sortant de l'école.
Les
c'est
aussi,
le confort définitivement de dire, moi j'ai étudié en communication publique, t'as le choix d'être pauvre ou pauvre. Donc, c'est plus facile de choisir l'entrepreneuriat quand tu dis « j'ai pas grand-chose à perdre ». Peut-être revenir un peu de la petite Cathy. Tu sais, tu disais tantôt « mon père me disait déterminé ». Est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial ou tu viens d'un milieu pas du tout entrepreneurial? Puis, est-ce que c'était une frustration? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on se lance en affaires. Tu sais, tu as travaillé dans des grosses boîtes. Je connais bien les Québécois de ce monde. J'ai eu une agence de pub pendant 10 ans. Donc, je les ai côtoyés. Ouais. J'ai fait un peu l'envers de la médaille. C'est quoi qui fait que tu as dit « j'y retourne pas » Parce que pour moi, il y a quand même de dire « bon, il y a eu cette période, la pandémie-là, qui fait que beaucoup de gens se sont lancés en affaires, mais j'en ai vu beaucoup retourner à de gros jobs une fois que c'était fini, de dire « ben, je suis devenu pigiste, j'ai fait quelques petits mandats. » Fait que peut-être partir un petit peu de la petite Cathy, puis l'évolution, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, tu y retournes pas chez Québécois? Ben, je me doute que c'est pas facile tous les jours.
En fait, c'est sûr que c'était vraiment un changement difficile, puis c'est vrai que des fois, je m'en ennuie, surtout du confort d'avoir des avantages sociaux. Parce que les premières fois, j'ai fait « Ah, t'es une bonne guidoune qui aime ça se faire masser une fois par mois. » Puis j'ai fait « Ah, j'ai plus d'assurance pour couvrir ces frais-là. » Fait que là, il faut que je revoie mon lifestyle. Mais, tu sais, il y a plein de choses que j'aimais, puis il y a des choses qui me manquaient. Puis juste pour mettre les choses en perspective, j'ai quitté KO Média. Tu sais, j'ai fait 8 ans chez Québécois, puis après ça, KO.
Qui est déjà un peu plus petit, fait que sûrement un peu plus entrepreneurial, peut-être, aussi comme culture.
Vraiment plus indépendant. J'étais toute seule avec mon terrain de jeu, alors que chez Québécois, on était peut-être trois sur le même territoire. Là. Fait que,
mais ton père est entrepreneur aussi.
Mon père est entrepreneur. Ceci étant dit, je peux pas dire que c'est mon père qui m'a influencé à devenir entrepreneur parce qu'il était très peu à la maison. Fait que j'avais jamais la possibilité de l'entendre dans ses meetings, dans ses pitchs. Tout se faisait à l'extérieur. C'était vraiment ma mère qui gérait le nid familial. Fait que, tu sais, je peux pas, malheureusement, dire que c'est lui qui
m'a... Ça t'a pas influencé.
Non, non, vraiment. Puis, je veux pas dire de toute façon, mais il était dans un domaine de la construction. Je me sentais tellement loin de la réalité que je... Attends, à part, c'est pas vrai, je dessinais avec lui des maisons okay. dans son bureau.
Bon, ça, c'est bien.
Ça, c'est cute. Mais, tu sais, c'est vraiment plus un désir d'autonomie puis de... d'indépendance, d'avoir la possibilité d'avoir une vraie flexibilité, parce qu'aujourd'hui, on dit haut et fort, oh, on a des horaires flexibles, vous avez le droit au télétravail, mais on dirait que à chaque fois que tu essaies de profiter un peu de ces avantages-là, ben dans une grande corporation qui a des gros objectifs financiers...
On te le rappelle,
oh ouais. Oh ouais, c'est comme, qu'est-ce que tu faisais à telle heure, tel moment? Fait que j'étais comme, non, je me sens pas libre dans mes décisions.
Tu ménages dans ta vie professionnelle.
Exact. Moi, j'aimerais peut-être challenger un point que tu as amené. Tu as dit la liberté.
Oui.
On a reçu d'autres personnes au podcast, entre autres, qui parlaient de liberté. Puis c'est vrai que souvent, on se lance en entrepreneuriat en pensant qu'on va être plus libre. Moi, personnellement, je me sens pas libre du tout. J'ai l'impression que je travaille pour tout le monde. J'ai toujours mes employés. Dans la vraie vie, je travaille pour vous. Je travaille pour mes investisseurs. Je travaille pour mes clients. Donc, j'ai jamais eu l'impression que j'avais plus de boss en ce moment. Mm-hmm. En tant qu'entrepreneur, probablement que j'en aurais comme salarié. J'ai pas été très longtemps salarié parce que ma plus longue job a duré 3 jours. Mais définitivement.
Pourquoi je suis pas surpris?
J'ai quand même cette impression-là. Fait que tu parles de liberté. Ouais. Est-ce que tu es vraiment libre en ce moment? Comment tu le ressens? C'est ça. Hein? Je pense que c'est toi aussi. Puis je trouve qu'on le dit pas assez aux futurs entrepreneurs. Ouais. Parce qu'il y a tellement de gens, moi je vais dans les écoles, puis des fois je parle aux jeunes, puis ils sont comme « Ah, je veux pas de boss », je fais comme « Lance-toi pas en affaires, je veux faire de l'argent, lance-toi pas en affaires ». Tu sais, ces raisons-là, des fois, qu'on pense qu'ils vont être la raison, mm-hmm. c'est peut-être pour ça qu'on se lance, mais rapidement, on va découvrir que c'est pas pour ça.
Non, exact. Puis tu sais, j'avais un très, très bon salaire, des belles fonctions, j'étais rendue à un point de ma carrière où, tu sais, ça allait vraiment bien, mes
affaires. Des semaines de vacances, puis quand tu pars en vacances,
c'était payé, c'était payé qui rentre pareil, ouais. Fait que c'est cool, tu sais, mais... C'est pour ça aussi que je dis merci PCU parce que j'étais déjà pauvre. Fait que j'étais comme le pire qui peut arriver au pire, c'est ça.
Je vois juste comme.
C'est vrai que ces moments-là sont les crises économiques. Là, on va probablement s'en aller dans une crise économique. C'est prouvé que c'est les meilleurs moments pour fonder des trucs parce que dans la vraie vie, quand t'as plus rien, t'as être lancé en entrepreneuriat. Mais une grosse job, j'avoue, les avantages. Puis je te le souhaite. Moi, j'ai l'avantage d'être rendu entrepreneur et d'avoir des avantages sociaux, d'avoir un propre business, d'avoir une équipe. Mais c'est vrai qu'au début.
Là, tu vois le coût réel des avantages sociaux. T'es comme, allez-moi chez le dentiste.
Ça, c'est vrai que ça monte. Ça, c'est vrai que ça monte vite.
Mais je veux juste rebondir sur un point que Dom te dit. La liberté vient aussi avec la liberté financière. Mm-hmm. Puis en ce moment, se lancer un podcast au Québec, moi, j'ai un ami qui appelle ça son podcast. Parce qu'il dit, j'ai mon podcast, mais je crache dans un micro puis ça fait juste me coûter de l'argent à chaque mot que je dis. T'es un des podcasts qui en vit bien au Québec. Mm-hmm. Est-ce que le marché est assez grand pour vivre de ça?
Mais ça dépend, c'est quoi, tu sais, quand on dit vivre de ça, c'est quoi tes attentes salariales puis c'est quoi ton niveau de confort? T'sais, moi, personnellement...
Au-dessus du seuil de la pauvreté, mettons.
Oui. Ça le fait. Okay. Puis c'est sûr qu'à ce niveau-là, puis c'est une des raisons pourquoi qu'il y a des entreprises autant que des particuliers qui m'ont approché puis qui ont fait « Wow, ta structure, ça va bien. » Ils voient les commanditaires que j'ai. Je génère du profit, mais c'est mon 10 ans en médias qui fait en sorte que je suis capable
ces réflexes-là que
de tout faire. J'ai envie d'accompagner. C'est un médium auquel je crois profondément parce qu'on est on est capable d'aller en profondeur dans une discussion, quelque chose qu'on n'est ni capable de faire en télé, en radio, puisque je fais de la radio. Je peux te dire qu'en 5 minutes, une chronique, tu ne vomis pas grand-chose comme information pertinente. Puis en télé, whatever, tu sais, tout est tellement cher de la minute. Au moins, le podcast, tu peux te permettre, t'as un coup de prod, don't get me wrong, surtout quand on est dans des grands studios de mer. Nous autres, on est gâtés, là. C'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens.
Mais... on est dans 1% des podcasts.
Mais j'ai envie d'offrir à tout le moins un accompagnement pour les créateurs qui ont un message pertinent pour faire du bien, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit pour la communauté LGBTQ, que ce soit pour les citoyens qui ont envie de se rapprocher de leur ville. J'ai envie d'accompagner les gens à créer des meilleurs connexion, mais avec du contenu qui se tient puis qui est monétisable à long terme. Parce que, comme tu l'as dit, Étienne, le monde dépense tellement d'argent dans le but de juste s'exprimer. Je suis comme, il y a une façon de faire en sorte que ce soit monétisable, mais pour ça que ça prend des connaissances. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir un 10 ans de pub comme moi en arrière de la cravate avant de se lancer. Tu sais.
Puis je sais que Dom doit avoir une question, puis juste rebondir là-dessus. Je serais curieux, quand on dit d'aller en profondeur dans une conversation, fait que ça, c'est vraiment la question de nerd, geek.
Ouais.
Tu penses quoi, justement, des métriques, des statistiques en podcast? Parce que les Huberman Lab de ce monde, les Joe Rogan qui font des podcasts de 2 heures, mais on calcule toujours combien de personnes ont vu 60 ou 40% de ton épisode. Ouais. Alors que c'est contre-intuitif de faire des longs épisodes, mais c'est ça qui pogne.
Bien, c'est ça qui pogne, tout dépendant c'est quoi la matière. Tu sais, Joe Rogan, parce qu'il reçoit des têtes d'affiches tellement grandes, whatever, c'est comme. On parle vraiment.
J'aimerais peut-être aller aussi dans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es la seule associée dans Urban Podcast? Ouais. Donc, se lancer seul, on va avoir un épisode où on parle de savoir s'entourer. Mm-hmm. Qui est évidemment un sujet à l'entrepreneuriat. Tout le monde dit qu'il faut s'entourer.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine. Donc, tu as deux choses, en fait. Ouais. Tu as l'aspect de t'être parti seul, bien, parti avec quelqu'un, mais aujourd'hui, d'être seul en affaires. Ouais. Comment tu vois l'aspect de s'entourer, sachant qu'il y a eu, bon, évidemment, certains rebondissements. Tu es parti avec quelqu'un, cette personne-là n'est plus là. Comment tu le vois? Puis seul, je me dis, on dit souvent qu'on est seul au sommet, qu'on n'a pas d'associé. Comment tu le vis, ce côté-là, et pourquoi avoir décidé d'être seul en ce moment?
Avoir décidé d'être seul, ben c'est vraiment, je l'ai lancé ce projet-là, on était deux. C'était pas Urban Podcast, ceci étant dit. Là. Maintenant, tout est centralisé sur Urban Podcast, mais c'était vraiment, on était une entreprise en nom collectif, tu sais. Fait que par défaut...
Une SENCRL.
Ça, c'est rare.
C'est vraiment rare.
Puis, c'est parce qu'on connaissait rien. On était allé sur le site du gouvernement. J'étais comme, bon, j'enregistre comment? J'ai une facture à rentrer somewhere, somehow. Tu sais, ça s'est vraiment passé de même. J'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Fait que fallait que je
comme tout le monde qui se lance en affaires. Personne, pratiquement, l'a déjà fait. C'est la première.
Puis, par défaut, quand on s'est dissocié, bien, il a fallu dissoudre cette entité-là. Puis, c'est là que j'ai décidé de créer Urban Podcast Inc. Fait que déjà là, j'avais une stratégie ou quelque chose en tête. Puis, j'étais comme, Génération Sidechick est une production sous Urban. T'sais, elle a son propre petit numéro à elle dans l'entreprise. Mais même si je me suis dissociée d'elle, c'était parce que c'était pas un bon fit professionnel puis que ça allait pas bien. On n'avait pas du tout les mêmes aspirations puis la même façon de travailler.
Mais ça va être au départ?
Non, mais je savais pas au départ non plus que ça allait devenir mon temps plein.
Okay.
Je voyais. C'est un side gig. J'ai pas tant analysé la chose. C'était vraiment plus.
C'est quoi? C'est comme vous êtes rencontrés, vous avez dit, oh, on va faire ça ensemble, mais il n'y a pas eu de réflexion sur c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les objectifs.
C'était pas un projet d'affaires.
C'était pas un projet d'affaires tant que ça. Je pense qu'on l'avait en dans nous, puis ça nous tentait que ça grandisse, ça devienne quelque chose de gros, de fun. Mais, tu sais, c'était une personne que j'avais rencontrée à l'école. On s'est recroisés dans un événement. On a fait un getaway de filles, puis ça s'est discuté entre trois bouteilles de rosée. Là. Fait que
t'es pas game, hashtag.
C'était plus genre, hey, ça me tente, puis on l'a fait. Puis, je l'ai pas tant analysé parce que si j'avais pris le temps d'analyser, ne serait-ce que même par rapport à ce qu'elle-même disait, c'était très clair qu'on n'allait pas finir à la même place, mais même moi, je ne savais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Fait que j'aurais pas pu faire mon chemin autrement, puis j'ai aucun regret, zéro. Puis ça m'a rendu service parce que je reviens à mon manque d'estime. Quand tu pars à deux, c'est bien moins épeurant.
Ouais.
T'sais, fait que moi, ça m'a rendu énormément service, puis c'est correct que ça se soit passé comme ça. Mais quand j'ai lancé après ça Urban Podcast, parce qu'il fallait que je me réenregistre, je l'ai déjà. Pourquoi? T'sais, ça coûte bien plus cher d'avoir une incorporée, mais c'est parce que comme, c'est sûr, je resterai pas toute seule. Je suis une fille d'équipe.
Ouais.
Je sais pas où est-ce que je m'en vais en date d'aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi ma lignée, mais chose certaine, c'est que je veux m'entourer, puis je suis déjà en train de le faire.
Pis, mal s'entourer, tu dirais que tu as perdu combien de temps sur ton.
Alors, tu t'es partout?
Ouais.
Deux ans sur trois.
Encore, je pense que, tu sais, il y a deux façons de le tourner. Toi, tu dis une perte de temps. Moi, j'appelle ça un apprentissage. Ouais. J'ai racheté mon meilleur ami par shotgun. Ce qui fait qu'évidemment, c'est plus mon ami. Fait que, tu sais, des histoires aussi comme ça.
C'est dur,
un peu la même chose. J'aurais pu savoir. Ben, je me rappelle qu'on avait loué notre premier bureau. J'avais une agence à ce moment-là. Lui avait dit, ben, pourquoi on ne s'achète pas un char de luxe plutôt que le bureau? C'était vraiment son thinking. On était rendu, je sais pas, on a 2000 $ par mois. J'aurais pu, mais tu sais, le gars est en vente aujourd'hui, un des très bons vendeurs. Parce que je dis souvent que les meilleurs vendeurs sont déjà endettés et qui ont un gros train de vie parce qu'ils ont besoin de faire des commissions. Mais pour moi, tu sais, aujourd'hui, j'ai appris, puis probablement que ce que tu vas faire, on apprend de ça. Fait que moi, je vois malheureusement souvent ce genre d'échec-là. On dit perte de temps. On dit, on a retardé.
Ça a été un retard.
Ça aurait peut-être été différent. Si tu avais parti seul, tu serais peut-être encore deux ans en retard. On le sait pas.
Ah oui, parce que ça aurait été d'autres genres d'apprentissage.
Exactement.
C'est ça, je me. Tu sais, c'est. Être entrepreneur, pour moi, c'est de faire des erreurs puis d'apprendre de ses erreurs. Puis ce qui va déterminer un bon entrepreneur, c'est la personne qui va apprendre de ses erreurs puis qui va être capable de bien s'entourer après.
Tu vas pas la faire trois fois.
Exact. Puis, tu sais, j'ai été capable de l'appliquer. Puis, selon moi, c'est une forme d'intelligence d'apprendre de ses erreurs. Merci. Mais, je dis ça de même. Mais, tu sais, ne serait-ce que par la suite, tu sais, avec mon ascension dans le domaine des médias comme personnalité publique, j'ai maintenant une agente qui travaille pour Cathy Marquis, qui travaille avec moi pour mon développement personnel. Puis, même avec elle, tu sais, j'ai fait là, je viens de vivre ça. On s'aime, on veut travailler ensemble, mais avant de me marier, je vais prendre une. C'est son expression à elle, en plus, c'est vulgaire, mais je l'aime, là. On va baiser avant de se marier.
Ouais.
Puis là, c'est à chaque fois que je développe une relation, tu sais, j'ai des pigistes, puis là, je suis comme, on va baiser avant de se marier. Je vais voir, est-ce que ça fit avant que je te donne des parts de la compagnie?
On va dire à tous vos employés, quand vous les embauchez, ça pourrait mal finir comme histoire.
Étant donné, on va danser avant de sortir ensemble.
Oui, je
ensemble.
Sais, mais ça serait pas Suzanne. Suzanne a dit ça de même, puis je l'aime de même. Elle est parfaite. Elle vient des années très rock'n'roll. Faudrait voir ses photos d'afro, mais elle serait fort. Je sais qu'on me met sur le monde.
Mais là, avec Génération Sidechick, ouais. là, tu es allé chercher des acolytes.
Oui, pour nourrir la discussion.
Ouais. Puis comment tu les as choisis? Parce que j'imagine que là, à ce moment-là, il y a eu une grosse réflexion.
Ouais, parce que c'est des gros noms. Il y a Anne Lovely, tu as Catherine Fournier, qu'on a sur le podcast, ouais. Amélie Bernier.
Amélie Bessimard.
Bessimard, pardon.
Léa Labrèche.
Okay, oui.
Léa Clermont-Dion.
C'est...
J'ai Noémie, Vanessa Pilon, Vanessa Boudrière. On est comme une couple. Mais tu sais, les filles font pas partie. Génération Sidechick, je suis la seule propriétaire.
Ouais.
Je leur paye un cachet.
OK. Ils sont payés pour être là.
Ils sont payés pour venir nourrir la discussion parce que, encore dans mes réflexions, c'est quelque chose qui était déjà le cas avant que je me sépare. Comme je l'ai dit, j'ai jamais voulu faire ce projet-là seul. Tu sais, je suis une personne de gang, j'aime ça. Puis mon but, c'est de partager puis de créer un safe place pour les femmes.
C'était-tu toutes des amies avant de les
reach out? Par exemple, Léanne, je l'avais reçue au podcast. Puis on a eu une connexion. J'ai fait, mon Dieu, que la discussion était le fun. Puis j'ai écrit directement après. Puis j'ai fait, hey, j'ai envie de diversifier. Je veux qu'il y ait plus de femmes qui soient capables de se reconnaître dans le contenu. Je vais toujours rester la même fille, hétérosexuelle, blanche, qui vient d'une famille québécoise. Tu sais, mon histoire, elle changera pas. J'ai besoin d'avoir des gens qui ont vécu d'autres choses, d'autres apprentissages pour qu'on soit encore plus capable de se reconnaître. Fait que c'était vraiment dans un objectif de diversité de contenu que je l'ai fait. Puis en même temps, ben, on s'amuse. T'sais. On a vraiment du fun.
Ouais, puis c'est intéressant de voir que tu payes les gens. C'est quand même assez rare dans la radio. T'sais, moi, j'ai été chroniqueur aussi. Justement, je me rappelle à chaque fois, je disais, ah, c'est sûrement bénévole. Puis les premiers qui me disaient, non, tu vas avoir un cachet, ben, tu y mets plus de temps.
Ouais.
T'attaches une valeur aussi à ça. Puis c'est malheureusement quelque chose qui est beaucoup dans le monde de l'influence. C'est la gratuité. Je te donne si je te change ça. Moi, je trouve intéressant de dire que tu as un cachet, ce qui veut dire que tu as une certaine façon des employés. Puis que tu es en train de créer de la richesse.
Je te donne la visibilité.
C'est souvent, exact, je te donne la visibilité.
Mais entre autres, mais c'est surtout aussi, tu sais, je suis très reconnaissante de ce que les gens m'offrent. Je suis très reconnaissante des personnes comme chez Grandy qui m'ont fait confiance avec ce projet-là puis qui m'ont donné accès à un studio que j'avais pas du tout les moyens de payer, mais qu'ils ont fait, on croit en ton projet, on va te backer pendant la première année. Tu sais, j'ai énormément de reconnaissance pour les gens qui croient en moi puis qui ont envie de m'accompagner dans cette histoire à succès. Puis à mon sens, c'est ce que les filles font. Puis je dis, c'est pas des énormes cachets, mais je peux dire quand même que c'est les mêmes cachets que je gagne quand je fais une chronique à radio.
Fait
que, puis si je suis capable de payer comme Bell Media, ben moi, je suis bien contente.
Ouais.
Fait que, tu sais, pour moi, c'est juste une question que je veux qu'on grandisse tous ensemble, puis ce projet-là va grandir, puis je vais être capable d'aller générer plus dans un X nombre de temps, puis leur cachet aussi va grandir.
Un des trucs que j'aime beaucoup, mais qui me questionne un petit peu, c'est à quel point parfois il y a le vrai et le faux. Mmh. Je regarde souvent l'Instagram de ces personnes-là, ils ont tous l'air beaucoup plus riches qu'ils sont. T'sais, tu parles d'instabilité financière, tu parles de vulnérabilité. À quel point tu penses, moi j'appelle ça les influpreneurs, là, qui est le mélange de l'influence et du preneur, mais à quel point c'est vrai? Parce que quand je regardais, mettons, ton Instagram qui est très léché, etc., je ressentais peut-être pas ce côté-là très entrepreneurial, très « je veux redonner », ce qui est pour moi la base de l'entrepreneuriat. Les plus grands entrepreneurs redonnent, créent de la richesse, partagent, etc. Pourquoi tu penses que les influenceurs, on le voit souvent pas ce côté-là? Je sais que tu te considères pas comme une influenceur, mais tu l'es d'une certaine façon. Et je t'ai pas vu non plus beaucoup parler, mettons, d'entrepreneuriat. C'est de ce côté-là. Bon. Pourquoi? C'est encore le sentiment de...
d'imposteur.
Je commence à m'identifier comme entrepreneur. Okay. Je commence aussi à réaliser que...
Puis tu l'as dit, tu sais, savoir s'entourer, t'as pris une agente. Pour moi, ça, c'est un bon aussi, savoir s'entourer, parce que la réalité... On est tellement mauvais pour négocier pour soi-même. T'sais, pour moi, donner des conférences, sincèrement, mon agent me détesterait, je dis ça, mais tu m'appelles, tu me donnes 500$ pour aller raconter mon histoire. Je serais l'homme le plus heureux au monde.
Ouais.
Des fois, Marie va dire, ah, telle grande entreprise va te payer 6 500$ pour une conférence virtuelle. Je comprends pas, je suis comme toi. Je me sens très, très mal à certains moments. Je me dis, pourquoi je vaux ça? Mais je trouve que de savoir s'entourer, c'est aussi des fois d'être capable de prendre ce recul-là puis de mettre quelqu'un qui va prendre ces décisions-là. Puis c'est pas tout le temps savoir s'entourer juste d'un point de vue, tu sais, je veux dire, j'ai des associés, etc. Moi, aujourd'hui, la plupart de mon équipe exécutive sont devenus, je les considère comme des partners.
C'est ça.
C'est pas nécessairement des gros actionnaires dans mon entreprise, mais je les considère comme des partners. Je pense qu'il y a, un côté plus large à savoir s'entourer. Je pense que Marie-Claude, définitivement, toi, tu as eu besoin de t'entourer en ce moment avec un bébé.
Juste pour être ici, il a fallu que je me suis m'entourée.
Logistique, ça a un.
Logistique, oui, non, ça change une vie. Puis pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour Urban Podcast?
Puis on veut un scoop. T'avais dit que t'en
avais un. Oui, c'est vrai.
Mais le scoop, il n'est pas tant par rapport à Urban.
C'est un scoop. On prend toujours les scoops.
Mais par rapport à la Génération Sidechick. Mais ou moi, un des deux. On peut tout prendre, c'est la même personne.
On prend toutes.
Mais
des vrais guidounes.
Des vrais guidounes. J'aime ça. On va tous se masser quand on ferme les caméras. On va se mettre. Tu sais, la chambre de ma page.
Ce podcast commence à être louche. On a dit.
Le pire, c'est que j'ai vu ta story hier, puis j'étais comme, semble que ça me ferait du bien en ce moment.
Ouais, puis t'as le droit, là, parce que t'es plus enceinte, t'as pas le droit. Que...
Non, c'est ça.
Hello.
Allô.
Bon, excusez.
OK, pour les gens qui nous écoutent.
Nous, on bien.
Il y a encore mon gros chien Belka, mais promis, c'est juste parce que je suis avec vous autres dans le studio aujourd'hui. Elle fera pas ça à toutes les émissions.
Oui, moi, ça va être
des invités à l'heure.
Donc, scoop.
Mais, Ben non, je vais commencer par répondre à la question un peu une podcast. Ce que je souhaite, c'est j'ai envie d'en, tu sais, mettons des productions comme nous, puis d'aider des créateurs à vivre de leur contenu. Quand je dis vivre, c'est pas nécessairement que ce soit la seule source de revenus, mais à tout le moins que ça soit rentable de mettre tout ce temps-là puis cette énergie-là. Okay. J'ai envie d'avoir, tu sais, je te dirais que d'ici un an, j'aimerais savoir 10 marques en tout. Nice. Que je sois capable d'aider à propulser. 10 marques différentes que je suis capable de les accompagner dans l'idéation de la création puis les aider à monétiser parce que c'est vraiment là-dessus qu'on m'appelle le plus, c'est Clis, comment tu fais pour aller chercher de l'argent? Là, je suis comme parfait, je vais vous appeler. Fait que tu sais, des aider, ça c'est mon goal pour Urban Podcast. Maintenant, vous m'avez devancé mon lancement, ben c'est ça. Fin 2024, on s'en parlera voir si ça fonctionne, mais j'ai déjà comme tenté le terrain. Puis Scoop, Génération Sidechick, ben tu sais, là je l'ai parti, je voulais vraiment m'assurer d'avoir comme une période de stabilité, de je rebrand, je m'entoure, est-ce que ça fonctionne bien? Et là j'ai un partenariat avec Urbania.
Oh, trop cool.
Qui là, je sais pas c'est quand vous allez diffuser par exemple, parce que là on va se le dire tantôt. Mais c'est pas grave, c'est correct, mais ça, on commence encore une fois. On va danser avant de se marier. Fait que on commence des choses ensemble, mais j'ai un partenariat avec eux dans l'optique de créer plus de contenu dans Génération Sidechick. Mais eux autres, c'est vraiment, ils parlent aux 18-24. Ouais. Fait que moi, je deviens un peu la face de la trentenaire. Ouais, fait que cool. Comme un échange de visibilité puis de partenariat. Ouais. Fait qu'on va faire ensemble. Fait que je trouve ça vraiment cool de pouvoir aller chercher une.
Mais je vais rebondir sur ton scoop parce que Philippe Lamar, là, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser l'épisode, mais va venir au dérangeant ou peut-être qu'il est déjà venu, en fait, puis on va.
On est toutes mélangées dans notre échéancier en ce moment.
C'est ça. Mais on demandera à Philippe s'il aime bien son partenariat.
Yes, fait qu'on va commencer avec des capsules là, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses. Là, puis aussi, autre sport scoop, là, mais j'ai une retraite créative avec mon équipe de Génération Statique et là, je vais faire pour la première fois une planification annuelle.
Oh my God!
Je suis rendue là. Et je me sens vraiment importante là, de faire comme j'ai acheté adulte, plein de gros post-it, là, puis je vais faire comme on fait une retraite. Fait qu'on s'en va s'enfermer 3 jours à Sutton pour faire tout le brainstorm et la stratégie. Puis tu sais, un de mes volets que je voulais vraiment en faire, c'est que nous, on donne beaucoup dans le message, on livre, la communauté nous écoute, mais le nombre de messages que je reçois à tous les jours, sans exagérer, de « Hey, j'ai écouté tel épisode, j'aimerais ça vous partager mon expérience de divorce. Ouais. Hey, j'ai écouté telle affaire, j'ai vécu. » Fait qu'il y a comme un désir de parler de son expérience. Les femmes ont envie de s'exprimer sur leur réalité. Je trouve ça beau parce que je suis comme « Enfin, on enlève les tabous reliés à des sujets plus délicats. » Fait que mon partenariat, le contenu qu'on commence à faire avec Urbania, c'est vraiment dans l'objectif d'écouter mon audience.
OK.
Cool. Moi, ce que je trouve beau, c'est qu'on est en train de voir quelqu'un qui avait un gros job avec un gros salaire confortable devenir entrepreneur. Tu sais, je t'entends parler de planification stratégique, les post-it, les OKR. Meilleure chose, dire je veux 10 clients.
Tu viens de dire ça, je sais pas de quoi tu parles. Hein?
C'est super. Mais tu vois, OKR, l'aspect que tu as dit, je veux 10 marques,
ouais.
C'est un truc atteignable. Okay, tu t'es donné un objectif, puis à partir de maintenant, c'est comment on va réussir à l'atteindre.
Ouais.
Je trouve ça le fun de voir quelqu'un qui a quitté une gros job et qui décide de se lancer, puis tu vois, d'enlever un peu le préjugé. Je suis arrivé ici en me disant, je vais avoir une discussion avec une influenceuse. Puis c'est pas une influenceuse, c'est une entrepreneur. Puis c'est clairement plus intéressant aussi d'entendre ça. Puis je pense que ça peut allumer bien des gens à dire, ben pourquoi pas moi, malgré mon confort d'aujourd'hui.
Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment truc là. C'est puis si j'avais mon chemin il est parfait là. Comme je le disais tantôt, j'ai aucun regret. Mais à voir comment que j'ai du fun à me réaliser aujourd'hui. Puis je suis comme Colin que j'aurais aimé ça avoir le courage de le faire plus tôt. Parce qu'avec l'âge, tu veux pas, je suis loin d'être vieille là. J'ai 36 ans, mais mettons repartir la même affaire à 26. Mon Dieu, que c'est excitant parce que là, t'as 26 ans, t'es comme je peux faire plein d'erreurs. Au pire, je retourne chez mes parents. Là, je me sens pas vraiment à l'aise de le faire.
T'as peut-être pas la même maturité.
C'est pas la même affaire. Mais tu sais, d'arrêter d'attendre que tout soit parfait ou d'avoir les finances, je sais que c'est cliché, tous les entrepreneurs le disent, mais là, je le vis, je vous le dis, il y a des moyens de s'arranger, de s'entourer. C'est sûr, moi, j'avais l'avantage d'avoir de l'argent de côté quand je me suis lancée. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que ça change la donne. Mais je pense que de juste prendre le risque, puis tout a changé de façon au fur et à mesure. Tu sais, j'ai commencé. Puis la vision Génération Sidechick, elle a évolué. Urban Podcast, je pensais pas que c'est la vision, mais là, je l'ai testé, je suis comme ça fonctionne, ça, c'est ça. Puis, tu sais, mon but, là, ce serait de tout orniper l'étage où est-ce qu'on est en ce moment, puis d'avoir plein de studios.
Puis, en terminant, une petite anecdote, là, quand Étienne et moi, on discutait qu'on voulait être filmé pour le podcast, j'ai dit, t'as-tu vu ce que Génération Sidechick fait? Il dit, ben oui, justement, ma blonde est venue dans les studios. J'ai dit, c'est tellement beau. Et vraiment, tu fais quelque chose de super bien parce que nous, c'est ce qui nous a influencés. Puis maintenant, ben, on en bénéficie. Fait que c'est une belle collaboration. On est vraiment contente de t'avoir reçu.
Merci tellement à vous autres. Je suis super contente. Puis merci de m'avoir fait confiance pour ça. Puis on est des voisins studio, là, fait que j'espère qu'on va bien s'entendre.
On se reparle, c'est ça, on sait où t'habites. Hein?
Ouais, sinon, on va aller baiser.
Coupez cette shot!
J'adore ça! Marie, elle vient d'accoucher, puis elle est comme, je suis prête à la retourner. Là. I'm back on the market, là. Merci.
C'est ce qui conclut le tout pour nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été avec nous.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeurs!